Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un moment de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre, beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur.
Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'ancienne alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur.
Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme.
Alléluia!
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le ciel s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel. Pas même le Fils, mais seulement le Père.
Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. La fin du monde, voilà une thématique qui nous effraie tous. Quand on parle des fins dernières, nous sommes effrayés, peut-être sans doute parce que personne ne sait comment les choses se passeront réellement, et peut-être aussi parce que dans notre imaginaire, pour chacun de nous, ce sera la fin de tout, la destruction de tout. Et encore aujourd'hui, quand de grands mouvements sociaux ou de grands troubles naturels se déroulent, nous sommes souvent tentés de penser que c'est peut-être la fin du monde. Mes frères et sœurs, là où des peuples s'interrogent, s'inquiètent ou se lamentent sur la destinée de l'humain, sur la question du bien et du mal, sur la signification des bouleversements tant naturels que sociaux, le Christ aujourd'hui dans l'Évangile nous aide à avoir un autre regard et une autre compréhension. Le Christ nous dit que cette finalité, cette échéance est à comprendre comme le jour du Seigneur, autrement dit un jour de salut et non pas un jour fatidique. C'est le jour, nous dit-il, de la rencontre avec le Maître de l'univers. De même, nous dit-il, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Oui, c'est un jour de rencontre, un jour de salut. Par son enseignement, le Christ aujourd'hui nous aide à passer d'une pensée de fin du monde à une pensée d'accomplissement du projet divin. Il nous invite à passer d'une posture de peur à une attitude de veilleur, d'une mentalité de contrôle et de maîtrise des événements à une attitude de foi et d'espérance. Les bouleversements qu'il annonce fixent notre attention, d'une part, sur la fragilité de toutes choses en ce monde, de tout ce qui disparaît. Car vous le savez, même les chaînes réputées vivre plusieurs siècles finissent par disparaître. Cependant, loin d'être source de désespérance, Jésus veut que son annonce nous pousse à mettre l'accent sur l'essentiel, ce qui demeure en vie éternelle. D'autre part, ces signes, selon le langage apocalyptique qui signifie plutôt révélation, révélation sur le projet divin, nous sommes invités à accueillir ce grand projet de Dieu qui est de mettre fin au mal. Oui, Dieu, le maître de l'histoire, vient pour combattre le mal. Il ne vient donc pas pour détruire. Les bouleversements cosmiques ne sont donc pas à comprendre comme fin du monde au sens de destruction totale, mais ils sont signes précurseurs d'une transformation et d'un renouvellement de notre monde. C'est ce processus que Saint Paul appelle douleur d'enfantement. Nous le savons, en regardant un peu notre société, oui, l'univers a bien besoin d'être profondément changé pour être viable. Oui, évoquons la montée de la violence, la crise économique, le désarroi de la morale, etc. Oui, il faut que ce monde passe pour voir le monde nouveau. Mais ce qui est vrai pour notre monde l'est aussi pour nous, frères et sœurs, pour chacun de nous personnellement. Oui, l'irruption des crises dans nos vies provoque nécessairement ce que l'on pourrait avoir, une crise personnelle, des chamboulements. Parce que comme le rappelle la deuxième lettre aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Or, on ne peut devenir créature nouvelle que dans ce bouleversement de notre quotidien, que dans ces changements nécessaires. Oui, les bouleversements annoncés par le Christ sont un passage obligé pour qu'en nos personnes et en nos sociétés, le salut de Dieu s'accomplisse. Le camp de cette rencontre avec le Seigneur, nous dit Jésus, n'est pas la chose essentielle, car cela appartient au seul Père, et ce serait de faire du mauvais sang que d'essayer de vouloir en percer le secret. D'ailleurs, entre nous, je me disais tout à l'heure en me faisant la réflexion que même si Dieu nous annonçait, ou du moins Dieu nous donnait le jour et l'heure, il y en a qui seraient toujours surpris. Voilà, prenons un exemple très simple à notre portée. Nous connaissons bien l'heure de la messe. Voilà, mais il y en a qui arrivent toujours en retard, n'est-ce pas? La chose cruciale, nous dit Jésus, c'est d'être trouvé fidèle. Heureux serviteur que son maître trouvera occupé à son travail. Oui, heureux serviteur que son maître trouvera occupé à son travail. Et dans le psaume, nous avons bien médité, « Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi seul mon partage. » Ces paroles, frères et sœurs, si nous les confessons réellement dans la foi, ils traduisent le combat dans lequel nous engage l'annonce de Jésus, celui de la fidélité à la vraie foi par le choix d'une vie renouvelée. C'est d'ailleurs aussi l'exhortation que le prophète Daniel adresse à ses coreligionnaires dans la première lecture. Eux qui sont persécutés par le roi grec Antiochus Épiphane, il leur recommande la fidélité à Dieu envers et contre tout. Et dans l'évangile, Jésus nous dit, « Cette génération ne passera pas avant que tout ce que j'ai annoncé arrive. » Oui, cela nous dit l'urgence de ce choix à faire, que nous avons à faire. C'est aujourd'hui et maintenant et non pas demain. Et à ce sujet, un sage moine disait à ses disciples, « Fais pénitence un jour avant ta mort pour avoir part avec le Seigneur. » Mais comment donc, lui répliquaient ses disciples, puisqu'aucun humain ne peut connaître de lui-même le jour de sa mort, à moins que Dieu le lui révèle. Et lui de leur répondre, raison de plus pour faire pénitence tous les jours. Frères et sœurs, ces propos nous rappellent notre devoir de fidélité dans notre quotidien. Ils nous rappellent que c'est à chaque instant que nous devons marcher sur le chemin de la conversion, en renonçant bien sûr aux diverses idoles de la vie, toutes ces choses fragiles qui passent. Bien sûr, pour nous attacher plus solidement au Seigneur. Frères et sœurs, l'annonce du Seigneur nous engage dans un combat de foi. Mais dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Cette certitude est proclamée par le psaume que nous avons encore médité. « Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. » Oui, Dieu est engagé personnellement avec nous. Et dans la première lecture, voilà, Daniel nous rappelle, il est engagé avec nous par ses anges qui sont à nos côtés, qui luttent avec nous. Parce que Dieu ne veut pas la souffrance ni la mort pour l'homme. Il le veut libre de toute forme de servitude. En Romains 8, Saint Paul professe cette certitude avec des mots très forts. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous » interroge-t-il. Et il continue, « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive ? En tout cela, dit-il, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Et il conclut, « J'en ai la certitude, ni la mort ni la vie, ni les anges ni les principautés, ni les présents ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Oui, quelle preuve plus manifeste de l'amour de Dieu pour nous, du Dieu qui veut nous sauver. Oui, un des lieux indiscutables où Dieu manifeste sa bonté miséricordieuse, c'est bien sûr dans le signe de la résurrection. Son Fils est venu, il s'est incarné parmi nous, il est mort pour nous parce que Dieu nous aime, mais parce que surtout Dieu veut nous délivrer du péché, Dieu veut détruire le mal. Mes frères et sœurs, cette vérité, nous la connaissons. Et pourtant, nous avons du mal à l'accueillir. Oui, pour rester des chrétiens debout, cela requiert de notre part un chemin d'intimité réelle avec le Seigneur et surtout une confiance inébranlable en lui. Cette annonce du Christ vient et nous rejoint pour nous interroger sur notre foi, sur sa capacité, sur sa dimension. Oui, pourquoi donc avons-nous peur quand on parle de cette échéance? N'est-ce pas parce que nous manquons de foi? N'est-ce pas parce que nous n'avons pas vraiment confiance dans le Seigneur? Car il faut le dire, si la question de la fin du monde nous effraie tant, c'est sans nul doute parce que nous sommes très attachés à ce monde, à ces choses. C'est peut-être aussi parce que nous voulons toujours tout contrôler, tout programmer. Et c'est peut-être aussi, enfin, parce que nous doutons d'être trouvés prêts. Cela est sans doute motivé par les échecs que nous pouvons vivre dans notre vie chrétienne. Mais qu'à cela ne tienne, comme disait Nelson Mandela, ancien président sud-africain, la plus grande gloire de la vie ne consiste pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de se relever après chaque chute. Une vision largement partagée par Winston Churchill qui disait durant une période sombre, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Ainsi donc, frères et sœurs, le plus important est d'être préparé à cette rencontre avec le Seigneur, d'y être préparé par le discernement et la persévérance dans la fidélité au Seigneur. D'ailleurs, en replaçant l'espérance au cœur de cette année jubilaire qui va bientôt s'ouvrir, le pape François vient nous rappeler, on va dire, le rôle essentiel de cette vertu, qui est celle de la certitude, une vertu par excellence des temps de crise. Oui, elle est la meilleure réponse pour notre monde en désespérance face aux chamboulements en tout genre et qui nous sont ressassés à longueur de journée par les médias. Mais il nous faut aussi, frères et sœurs, nous réapproprier les sacrements qui nous sont donnés, qui sont des moyens tangibles et efficaces pour rendre manifeste et soutenir la vie dans l'espérance chrétienne durant ces temps difficiles que nous vivons. Les sacrements sont le lieu où nous pouvons nous ancrer très profondément en Dieu. Ils nous aident à participer de manière efficiente, ici et maintenant, au profond renouveau dont nous-mêmes et notre monde avons besoin. En vivre vraiment aidera indéniablement à soutenir notre vie chrétienne, surtout les vies les plus cabossées par les épreuves de la vie. Frères et sœurs, les défis à relever sont certes nombreux, mais quand nous ne saurions pas quoi faire concrètement pour être trouvés en veille et au travail dans le champ du Seigneur, inscrivons-nous à la suite de notre vénérable Père Jean-Léon le Prévôt, ami des pauvres et des petits, apôtre de la charité, fondateur d'une congrégation qui travaille auprès des pauvres et des petits. Oui, en cette journée mondiale des pauvres dont le thème est « La prière des pauvres s'élève jusqu'à Dieu », comme le Père le Prévôt, laissons-nous toucher par leur appel, écoutons-le, répondons-y en agissant pour eux avec bienveillance, patience et persévérance. Car comme le pape François le souligne dans son message à l'occasion de cette journée, c'est de la pauvreté que peut jaillir le champ d'espérance le plus authentique. De même, il y a quelques années, toujours à propos de la journée mondiale des pauvres, le même pape François avait cette belle phrase. Les pauvres nous garantissent un revenu éternel et nous permettent dès maintenant de nous enrichir dans l'amour. Tends donc la main à celui qui est dans le besoin au lieu d'exiger ce qui te manque. Ainsi, tu multiplieras les talents que tu as reçus. Voilà de quoi nous rassurer et motiver en nous le don du service des autres et surtout des défavorisés par une charité inventive. Puisse l'Esprit Saint raviver en nous le zèle de la charité. Que Dieu nous écoute et nous exauce, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.